Et la deuxième, c'est pourquoi aussi peu de différence entre montpellierien et extérieur, 90 à 10. C'était les deux questions que...
Parce que vous savez, souvent, au réveillon, oui, je ne sais pas si vous amis, y allez, oui. Voilà, vous, les Montferrérins amènent des amis. Alors, ils n'habitent pas la commune, certes, mais bon, voilà.
Si je n'étais pas amenée, ils ne viendraient pas.
Mais quel est le coût de revient? En gros, on peut estimer...
Cher. On ne fait pas de bénéfice, c'est ça. On n'a jamais fait de bénéfice. Jamais. Donc, bon, je pense que...
Parce qu'il n'y a pas que le repas, hein. Il y a le spectacle.
Bah oui, il y a le spectacle. Hein. Là, le spectacle, on l'offre. Hein, donc,
Mais comme le nombre de personnes avait baissé, disons, ces derniers temps, bon, après, suite au Covid, etc., je pensais que la proposition pour les personnes... qui n'étaient pas très fortunés, pouvaient bon, donner plus de personnes, faire amener peut-être quelques personnes supplémentaires.
Après, l'intérêt, ce n'est pas forcément d'avoir plus de personnes, mais de couvrir les frais. Dans la mesure où déjà le spectacle est offert, au moins sur l'alimentation, s'y retrouver. Enfin, je ne sais pas, mais c'est le calcul qui
est fait. Bon, on y réfléchira. On y réfléchira.
Le problème, c'est que c'est compliqué parce que ça veut dire comment tu vas appliquer un tarif. Ça veut dire que les gens vont venir avec leur feuille d'impôt.
C'est impossible. Surtout pour ce genre de
vente. Voilà, c'est comme ça.
Non, mais attends, pour le relâche de ces fêtes, tu vas demander aux gens de venir avec leur feuille d'impôt. Bien sûr. Et pas.
Mais non.
Voilà.
C'est non, c'est une question de.
C'est tout.
Moi, je pense que.
Ou alors, on se base sur les... Non, j'allais dire les tarifs de cantine, mais c'est pas forcément les enfants.
Il va falloir les petits drapeaux aussi.
Pour avoir les infos. Mais ce sont forcément des gens qui.
Mais c'est pas ces gens-là qui fréquentent le réveillon généralement, Michel.
C'est compliqué quand même.
J'ai rarement envie de famille avec des enfants.
Vous pouvez profiter du réveillon pour y venir avec leur feuille d'impôt. Bon, tu fais pas d'impôt. Après, si tu ne veux pas la fournir, tu ne viens pas. C'est une suggestion.
Je dis ça parce que
on finit l'analyse des besoins sociaux, comme vous le savez, le mémoire est quasiment terminé. Et bon, Montferrier, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a aussi, et beaucoup, enfin beaucoup, le terme est toujours relatif, hein, de gens qui sont dans la précarité. Voilà. Donc certes, il y a des gens très très riches, c'est sûr, il n'y a qu'à se promener pioche de Bayos ou de Vèze, etc., pour le constater, mais derrière cette majorité, il y a quand même une minorité non négligeable de personnes qui sont dans la précarité. Et voilà, donc c'est pour les associer, ces gens-là sont sur la commune de Montferrier. Et donc, c'est un moment, le réveillon, pour associer les gens, pour qu'ils se rencontrent, etc. Voilà, c'est tout. Hein.
Ce serait bien qu'ils se rencontrent déjà pendant la nuit. Hein.
La première, enfin, il me semble, après peut-être que, voilà, il me semble que les gens qui sont dans la précarité vont hésiter à mettre même 50 euros pour aller, et 50 euros à deux, ben, ça fait une soirée à 100, peut-être que ben, c'est beaucoup, parce que peut-être que les enfants, il va falloir les faire garder, ouais. Etc., etc. Donc, je pense que
c'est... Et puis, il y a d'autres occasions où ils peuvent venir. J'ai passé trois semaines de tennis, des gens m'ont offert, j'en ai pas vu beaucoup, pourtant la bière était à 2,50 €, et tu mangeais une merguez pour 3 euros. Donc après des moments pour rencontrer les gens, c'est pas que le 31, t'as plein de moments pendant l'année, tu vas au foot, au tennis, tu vas te promener. J'ai passé ce 15 jours et des Montferrierins, je peux, à part ceux qui sont au club, j'en ai compté très peu. Et pourtant c'est pas le prix qui bloquait. Et c'était convivial, et le club a fait des efforts, et ils ont tenu une buvette tous les soirs jusqu'à minuit.
Ouais.
Après, je veux bien qu'on aide sans problème. Il y a des endroits où tu peux venir pour pas cher et passer un bon moment. Et j'ai pas vu grand monde.
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Juste une question, oui. Pour le compte rendu. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'il y aura une discussion, une réflexion ou pas? Parce que tu as évoqué le...
Je pense qu'il va être difficile de mener une réflexion sur un...
Donc on n'en parle pas. Non, mais parce que retranscrivons quand même la décision. Il y a l'audio.
Oui. Donc la délibération numéro 7, on est encore sur du tarif. je vous propose de mettre le tarif du repas républicain à 20 euros. C'est pas très cher, c'est pas cher. On verra si on est à prix coûtant ou si on est à perte. On va voir.
On est à perte.
On est à perte,
je crois que c'est 25 euros.
On est à perte de 5 euros par personne.
D'accord. Bah écoutez, on va démarrer à 20 euros, on va voir comment ça fonctionne, et puis l'année prochaine, on revotera s'il faut à 25 euros, on passera de 20 à 25 euros, on verra. Je vous demande donc, nous allons délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La dernière délibération concerne les modifications des compositions municipales. Ce qui est normal, puisque la première chose, c'est le départ de Madame Serre. Donc, on se retrouve au niveau de la commission affaires scolaires et sportives, puisque Madame Serre faisait partie de cette commission. On se retrouve aujourd'hui avec 7 membres, au lieu de 8. Donc, 4 avec vous pour Montferrier, 1 vivant Montferrier et 1 Montferrier ensemble. Pour donc les membres de la commission, je les rappelle, hein, Steve Chrétien, Christian Raymond, Olivier Masson, Sabine Tourollier, Myriam Gelsomino et Céline Gaulin. Ça, c'est pour la démission de Madame Marine Serre. Monsieur Steve Chrétien a voulu se retirer de 2 commissions, la commission communication et vie associative, ce qui amène cette commission à 7 membres, qui sont Madame Georgetti, Monsieur Depont, Madame Lagriffole, Madame Gombert, Madame Gelsomino et Madame Gaulin. Et de la commission Affaires sociales, enfance, seniors et jeunesse, où on retrouvera Madame Cabas, Madame Rochette, Monsieur Crespi, Madame Rivingarig, Madame Gelsomino et Monsieur Bon.
Oui, je voulais faire 2 remarques. La première, c'est sur la note de synthèse, vous venez de le dire maintenant, mentionner 7 membres. Il n'y a plus que 6 membres, non?
Non, et le maire est membre de droit, donc ça fait 7 membres. Voilà. C'est marqué, monsieur. Madame voilà. Le maire est membre de droit. Voilà.
La deuxième question, pour monsieur Chrétien, pourrait-on connaître la raison de cette démission ou retrait, on joue sur les mots. Mais...
Oh non, c'est pas une démission, je n'ai pas démissionné du conseil municipal, je me suis retiré de 2 commissions. Alors pour une raison très simple, c'est que les affaires scolaires occupent beaucoup, beaucoup de mon temps, et que je n'ai malheureusement pas de temps à consacrer à ces 2 autres commissions. Au-delà de mes activités professionnelles aussi.
Sachant qu'au départ, il me semble que M. Chrétien n'était pas dans une des 2 commissions.
J'étais pas dans, j'ai remplacé quelqu'un. Une personne dans une des commissions. Et voilà, et aujourd'hui, les affaires scolaires. Brigitte a pu vous le dire, Madame le maire, pardon, a pu vous le dire tout à l'heure, le recrutement du DGS est en bonne voie, ça permettra de souffler un peu à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, et je pense que Mme le maire peut en témoigner, puisque j'étais absent la semaine dernière, donc c'est elle qui m'a suppléé sur mes fonctions avec le déménagement de Vézou, les affaires scolaires, c'est un gros morceau.
C'est un gros morceau, tout à fait.
Donc,
les écoles représentent le poste, d'ailleurs même au niveau finance.
Ah oui, oui.
Les écoles représentent le plus gros poste dans la commune. Et c'est vrai qu'entre le personnel, les enfants, les parents, les enseignants, c'est vraiment de l'investissement. Et moi, cette semaine, j'ai été présente toute la semaine, la semaine dernière. Et c'est vrai que il faut assurer. Quoi.
Voilà. Et je vous avoue que je suis très content d'avoir Christian qui s'occupe du sport, parce que s'il fallait gérer le sport en plus, ce serait compliqué.
Voilà. D'autres questions? Non. Donc nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous allons finir par les questions de M. Bord.
Il demande une première question concernant les commissions métropolitaines. Il y a plusieurs années, le conseil municipal du 24 septembre 2020, Jean-Marie d'ailleurs, avait demandé où en sont les commissions de la métropole et si son groupe pourrait participer. Madame le maire, vous aviez alors répondu, du fait du changement de gouvernance, leur mise en place a pris du retard, mais comme par le passé, l'opposition pourra participer à toutes les commissions qui l'intéressent. Or, à ce jour, nous n'avons eu aucune proposition pour participer à ces commissions, et plus est, nous n'avons pas eu d'informations, au moins en commission municipale, sur ces commissions métropolitaines. Sauf en commission d'urbanisme, plus largement. Alors, qui de notre conseil d'abord municipal participe à ces commissions? Quelle année la fréquence? Quels sont les points de discussion? Pourriez-vous au moins nous informer de temps en temps? Alors, on sait, en regardant sur le site de la métropole, qu'il existe 7 commissions thématiques. Et la dernière question que je vous posais, puisque je viens de la prendre il y a peu de temps, il est à noter que les conseillers municipaux peuvent s'inscrire pour participer aux commissions de la métropole, m'a-t-on dit. Toutefois, cela nécessite d'être validé par le conseil métropolitain en amont pour bien connaître qui participe à quoi. Alors, est-ce vrai? Et si oui, pourquoi ne pas nous avoir informés?
Alors, les commissions métropolitaines, bon, vous les connaissez, il y en a 7, je ne vous apprends rien. C'est vrai qu'elles ont tardé à se mettre en place, elles se sont mises en place. Et ensuite, nous, en tant que commune de Montferrier, nous avons droit à un conseiller par commission. Et donc, les commissions étant, par exemple, la commission ressources-finances, il est évident que j'ai proposé M. Capot, adjoint aux finances. Et pour toutes les autres commissions, j'ai fait de la même façon. Il n'y avait pas de commission affaires scolaires, donc M. Chrétien a été, je l'ai proposé à la commission cycle de l'eau. Il n'y avait pas de commission communication, j'ai proposé Mme Georgetti à la commission attractivité pour être au courant de ce qui se passait au sein de la métropole. Ensuite, il y a une commission environnement, Mme Thomas y est. Il y a une commission aménagement du territoire, c'est M. Depont. Et il y a une commission animation du territoire, c'est Mme Rouquayrol. Je crois que nous avons fait le tour des... Ah, il y a une commission solidarité, il y a Mme Cabas. Donc, il est évident que j'ai proposé les membres de la majorité pour aller à ces commissions. Ces commissions se réunissent tous les 2 mois à peu près, systématiquement 15 jours avant les conseils de métropole. Donc quand je dis 2 mois, c'est à peu près 2 mois, 15 jours avant les conseils de métropole. Elle dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Ce soir, si vous voulez, vous pouvez interroger les conseillers adjoints qui sont à ces réunions, à ces commissions, et ils vont vous parler de ces commissions. Alors on va laisser la parole, par exemple.
Je pensais que... Bon, dans certaines commissions, dans l'urbanisme, M. Depont nous rend compte du travail qu'il mène dans la commission.
Non, on mène pas de travail.
Il
n'y
a pas de travail.
Il n'y a pas de travail, M. Bord.
M. Bord, les commissions métropolitaines,
ce sont des chambres d'enregistrement.
Exactement, ce sont des chambres d'enregistrement pour le conseil de métropole qui a lieu 15 jours plus tard.
Pendant les périodes Covid, ils les avaient mises en visio. Je parle pour ma commission. Ils nous ont demandé si on voulait en présentiel. Moi, j'avais voté pour qu'elles soient en présentiel. La majorité métropolitaine a décidé qu'elles resteraient en visio. Donc, on les fait constamment en visio. On ne se rencontre pas. C'est par Teams. Et c'est, on égrène un ordre du jour qui nous a été envoyé, je crois, une semaine à l'avance.
Non,
deux jours à l'avance.
Trois jours à l'avance.
Et on égrène. Il y a un vote qui se fait, mais qui ne les tient pas.
Il n'y a pas de vote.
Ah, si,
il demande est-ce que
quelqu'un s'oppose, voilà. Tout ça. Mais enfin, on ne fait que dégrainer un ordre du jour ça, et ils veulent faire en 1 heure. Quoi. Donc c'est. Enfin.
Alors après.
Il n'y a pas plus d'échanges que ça. On a un rapporteur sur chaque dossier qui présente le dossier. Généralement, le président de la commission ou une autre personne membre de la commission.
Ou un agent technique,
si effectivement de la métropole, s'il y a nécessité d'avoir un agent technique. Mais
pour moi, ces commissions n'existent pour être un alibi d'un fonctionnement bien démocratique
sûr.
Qui, de toute façon, n'existe pas.
Bien
donc, ce n'est qu'un alibi. Donc, ces commissions, elles peuvent permettre quelquefois d'avoir des infos. Faut pas se le cacher. Quelquefois, on a des infos sur les trucs. Jean-Marie avait des infos sur la commission dans laquelle il était, puisque dans le mandat précédent, on avait pu participer à ces commissions.
Mais elles étaient complètement différentes. C'était pas la même façon. Enfin, si, c'était des chambres d'enterrement, mais c'était ouvert. Moi, je me souviens être allée dans l'ancien mandat à des commissions d'urbanisme. On était 4.
Oui.
Donc, ça n'avait rien à voir. Il y avait 24 commissions à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 7. Donc, non, le mode de fonctionnement est complètement différent. Après, c'est vrai que ce ne sont que des chambres d'enterrement. Et alors, vous revenez sans arrêt là-dessus, Monsieur Bord, à croire que vous... je ne cache rien. Il ne se dit rien sur Montferrier. Rien. Combien de fois en urbanisme a-t-on parlé de Montferrier, Monsieur Dupont?
On a eu 17 commissions, je crois.
On a eu donc 17 commissions. À chaque commission, on examine. On a eu 17 commissions. À chaque commission, on doit examiner une quinzaine d'affaires. Faites le calcul, hein, 17 fois 15. Sur ce nombre de commissions, sur ce nombre d'affaires, il y en a eu 3 qui concernaient Montferrier. L'approbation du PDA, on en a largement parlé avant. La rétrocession de l'emplacement réservé sur le clos Olivier, on en avait parlé aussi. Et dans, tout en début de mandat, ils ont fait un point sur Bayerguet. Je pense qu'il n'y a rien à vous apprendre.
Non, mais je disais que vous l'aviez indiqué, effectivement. Et vous êtes le seul.
Pour répondre à la question qu'il a posée, excusez-moi.
Vas-y.
Pour répondre à la question qu'a posée Jean-Paul, sur même, sur le fonctionnement, puisque Jean-Paul a l'info que. Moi, franchement, c'est des commissions qui ne m'intéressent pas beaucoup. Mais enfin, s'il y a des gens que ça intéresse et qui ont la possibilité d'y participer, si c'est vrai qu'il y a la possibilité d'y participer et que ça intéresse des gens,
oui,
autant qu'on le sache, oui, parce que mais peut-être que tu ne le sais pas.
Enfin, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est la question que je vous pose.
Je pense que ce dont vous parlez, c'était les inscriptions en début. C'est-à-dire en 2021, quand le Conseil de métropole a validé les conseillers proposés par les communes, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait la possibilité à différents conseillers municipaux de pouvoir intégrer des commissions. Je ne pense pas, mais je vais me renseigner.
Vous ne pensez pas, mais vous n'êtes pas sûr.
Non, je ne suis pas sûr, mais je vais me renseigner, monsieur.
D'accord.
Pas de souci. Que dans le fonctionnement, dans la mise en place de ces commissions, Renaud Calva lui-même. Nous avait dit qu'il n'était pas question qu'il y ait des gens de l'opposition qui soient représentés dans ces commissions. En tout cas, que lui, dans sa commune, ne le ferait pas. Donc, c'est très clair.
Ça dépend peut-être pas seulement du maire.
Non, et pour, sauf si il y a cette possibilité. Alors,
voilà,
je ne sais pas comment on peut le savoir.
Non, mais c'est facile pour le savoir. C'est très facile.
Moi, je le Madame le maire,
moi j'ai conseil de métropole le 11 juillet. Alors, donc, voilà. Et je vais y passer toute la journée. J'ai le temps de demander. Oui.
Voilà. Ok, merci. Deuxième question. Alors, celle-là, c'est un terme.
Il y en a combien? 3.
Comme toujours. Comme toujours, jusqu'à la fin, il y en aura 3. Alors, deuxième question, ça nous a été envoyé par des riverains, allée des Platanes, et les rues Front du Noyer, et chemin des Ébéières. Alors, plusieurs Montferriens nous ont fait remonter un problème récurrent concernant les deux intersections, allée des Platanes, chemin du Noyer, Front du Noyer et chemin des Ébéières, avec les fameux CD des passages. Certains sont vraiment. Ces passages sont très rarement respectés, ce qui est dangereux, hein, surgène. La mairie a été contactée plusieurs fois à ce sujet, sans toutefois, m'a-t-on dit, avoir apporté de réponse aux questions posées. Certes, la foirerie est gérée par la métropole, mais n'est-ce pas à vous, Madame le maire, ou au conseiller délégué aux mobilités, de faire remonter ce problème de sécurité récurrent, de pousser auprès de la métropole pour améliorer la sécurité de ces deux passages très empruntés? La solution ne serait-elle pas, puisque le CD de passage n'est visiblement pas suffisant, de mettre des stops à la place et de demander à la police municipale de mettre en place des contrôles de temps à autre pour inciter les usagers de la route, quel qu'il soit, à respecter la signalisation? Merci.
Je vous remercie d'avoir posé cette question. Heureusement que vous existez, monsieur Bord, parce que sinon on n'aurait pas d'idée et on ne travaillerait pas avec la métropole pour poser les bonnes questions. Bon, c'est pas grave. Les intersections, on les connaît. Alors, vous savez que le code de la route, c'est la priorité à droite. C'est la priorité à droite. C'est le code de la route. Ça veut dire que dans n'importe quel village dans lequel vous rentrez, vous devez respecter la priorité à droite. Il s'avère qu'à l'intersection de la Font du Noyer au cimetière et au niveau des Ébéières, ils ont mis 2 CD le passage. Franchement, je reconnais que sur les 2 CD de passage, il y en a un qui est un peu compliqué à respecter. Celui qui est montant, c'est-à-dire quand on monte l'allée des Platanes, qu'on a le chemin des Égayères à droite, c'est le passage, il est inutile puisque c'est une priorité de droite. Je le répète, chaque fois que vous arrivez sur une rue, priorité de droite. Donc normalement, on ne devrait pas avoir cédé le passage, priorité de droite, tout le monde devrait passer. Dans l'autre sens, le cédé le passage pourrait peut-être avoir un peu plus de valeur, mais il est compliqué parce qu'une fois que les gens s'arrêtent à se céder le passage, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire s'il y a 2 voitures. Chemin des Aiguillères, allée des Platanes, les gens ne savent plus. Je le prends 4 fois par jour. 4 fois par jour, je vois ce qui se passe. Donc cette problématique, je la connais parfaitement. On l'a déjà fait remonter à la métropole. La métropole nous répond que la réglementation, c'est la priorité à droite. Alors, on a parlé du stop. On a parlé du stop. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être mettre un stop. Aujourd'hui, mettre un stop avant un... Un passage surélevé, ce n'est pas recommandé. Mettre un stop avant un passage, puisque là, au niveau du chemin des Aiguillères comme de la fonte du Noyer, celui des Aiguillères d'ailleurs était un peu plus marqué que celui de la fonte du Noyer. La métropole nous a répondu que la réglementation nous s'opposerait à un stop. Mais nous n'avons pas perdu espoir, et avec M. Jam, nous les rencontrons une fois par mois, et à chaque fois, nous insistons, et nous allons peut-être arriver à obtenir un stop en phase test, pour voir comment ça va se passer. Peut-être qu'on se rendra compte que ça ne fonctionnera pas, et on retirera le stop. Donc peut-être qu'on fera une phase test avec le stop. Voilà.
Alors, merci de me donner cette information, mais les riverains qui vous ont écrit auraient aimé aussi avoir l'information. Donc, ce n'est pas interdit de votre part, je pense. Ce n'est pas parce que vous êtes maire que vous ne pouvez pas dire aux riverains ce que vous devez dire. Et pourquoi je pose une question orale, tout simplement, pour que vous disiez ce que vous en pensez. C'est tout. Parce que les gens attendent, et si vous envoyez cette question orale, madame, c'est que ils attendent et ils n'ont pas de réponse. Ils attendent désespérément parfois.
Monsieur Borne, la problématique, si vous voulez, problématique, c'est que je n'ai pas de secrétaire attitré. Comme tous les maires de la métropole.
Au lieu de prendre un chargé de communication, prenez une secrétaire attitrée.
Non, monsieur Borne, parce que ce n'est pas utile d'avoir une secrétaire à temps plein. Je pense que ce n'est pas utile d'avoir une secrétaire à temps plein. Donc aujourd'hui, je fais ce que je peux, sachant qu'aujourd'hui, je fais deux jobs.
Ça fait un moment que vous faites ce que vous pouvez. Pardon? C'est heureux, vous avez été élu pour ça.
Ah oui, mais enfin, monsieur Borne, au vu de ce que vous dites, je pense que là, vous êtes en train de m'attaquer, c'est absolument pas... C'est anormal, je dirais. Je pense que je fais tout ce que je peux pour la commune. Point. Mais troisième question, monsieur Borne.
Je peux juste intervenir. Moi, je me pose la question, dans une commune... L'important, c'est la priorité à droite. Je me pose la question de cette deuxième priorité, à gauche. Ça n'existe quasiment, nulle part. Quelle est la nécessité de cette priorité à gauche?
On sait très bien que la gauche n'est pas prioritaire. Hein.
Michel, ça, tu l'as cherché.
C'est un mec de droite qui a fait le code, alors c'était Napoléon. Donc,
ce n'est pas mon exemple. Ce n'est pas mon héros.
Non, mais je ne sais pas pourquoi, parce que pourquoi ce CD passage, il remonte à longtemps. Hein. Enfin, il ne sort pas d'il y a 3 mois, hein, ni 3 ans. Hein.
C'était au mandat précédent.
Non, ces CD de passage, ils ont été mis avec un objectif simple, qui était de suite faire ralentir la vitesse. Parce que la conséquence avait été prise que les gendarmes couchés n'étaient pas suffisants. Et donc, aux embranchements, à ces deux embranchements-là, il y avait des risques substantiels d'accident. On aura le même problème. On a le même problème sur le boulevard de la Gironde et qu'il va falloir traiter de façon similaire. Et donc, ils avaient été mis là pour ça. Un CD de passage, c'est comme ce qu'ils ont installé à Prades aujourd'hui, force les gens à ralentir, voire à s'arrêter. En théorie,
devraient penser.
C'est des stops.
Ils ont mis des stops.
Non, c'est des CD de passage.
Non, c'est des CD de passage.
Oui, partout, c'est des CD de passage.
Ah bon?
Preuve que les stops ont été supprimés. Voilà, preuve que les stops ont été supprimés parce qu'ils sont juste systématiquement avant des gendarmes couchés et ils ont installé 3 ou 4 de CD de passage. Et donc cette philosophie-là, c'était de casser la vitesse de la circulation. Le fait est, c'est que ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de situations, ça se fait pas. Mais la personne qui va trop vite, qui ne respecte pas la signalisation, est responsable. D'accord? Donc, quelque part, vous ne forcerez pas les gens, quel que soit le type de panneau ou de feu ou ce que vous mettrez, à ce que les gens suivent scrupuleusement la réglementation. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans le village, chemin de la qualité, il y a des gens qui roulent à 30, pas à 50, à plus de 70. D'accord? Donc, je pense que cette problématique de l'apaisement de la circulation, qui concerne Vallée des Platanes et qui concerne le cœur du village, il est aujourd'hui plus ou moins traité dans le cadre du groupe de travail mobilité. Je pense que c'est à cette occasion-là qu'il va falloir rediscuter sérieusement avec la métropole. Il y a des propositions qui ont été faites, à voir si on peut les mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on résoudra ce problème de la circulation dans le cœur de village. Pas en remettant un stop à un endroit où il y a un sujet de passage. Ça ne servira à rien, de mon point de vue. Ça ne servira à rien.
De ton point de vue, ça ne sert à rien, mais les gens en ont marre d'être comme ça. Et un stop, c'est quand même plus pénalisant qu'un sujet de passage. Donc quelqu'un qui ne s'arrête pas à un stop ou qui ne s'arrête pas à un feu rouge, s'il est pris par le gendarme, ça risque quand même de lui coûter beaucoup plus cher. Donc moi je pense qu'un stop, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est quelque chose, je vous l'avais dit, qui est déjà fait dans beaucoup de communes. Hein, quand on va à Nian, quand on va, etc. Beaucoup de communes pratiquent cela. Sur les routes prioritaires, on va dire aller des Platanes par exemple, eh bien des stops sont mis dans ces autres communes sur ces routes prioritaires. Et
dans les
bien
deux
sûr,
sens.
On peut dire, oui,
dans les deux
bien
sens.
Sûr, dans les deux sens. Bien sûr, on peut dire, Jean-Marie, il faut attendre le groupe de travail, etc. Mais ça, ça risque de durer quelques années, voire ne pas aboutir.
Non, mais...
Tandis que là, c'est un problème ponctuel qui, Madame le maire dit qu'elle elle va s'en charger, elle va, etc. Je pense que ce serait intéressant de traiter ce problème et de, pourquoi pas de mettre un stop, comme vous le dites, passager. Enfin, on va voir, pour un temps, pour voir si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça peut être intéressant. Et je sais que beaucoup de gens, et moi je suis concerné, quand je sors du chemin des Éveillères, on me sortait, on voit rarement à droite, et à gauche on ne voit rien d'ailleurs, hein, c'est pas compliqué. Et donc c'est vrai que c'est...
À gauche on voit bien, monsieur... Non, à gauche on voit parfaitement bien, on a le miroir.
Oui,
alors là, on voit très bien. Et à droite, c'est à droite... Ou quand on s'engage et qu'il y a le bus qu'on n'a pas vu arriver, qu'on s'engage et que le bus vous arrive dans le nez, c'est là où c'est embêtant. Mais à gauche, on voit parfaitement
bien.
Mais
quand le bus arrive de gauche aussi, je vous assure que le bus...
Vous le voyez ? Vous le voyez parfaitement, monsieur Bord. Le miroir, moi je le fais, tous les jours.
Non, mais de toute façon,
c'est une question de sécurité. Voilà, on peut essayer.
Mais il n'y a pas eu tant d'accidents. Il n'y a pas eu tant d'accidents que ça, là, quand vous réfléchissez. Depuis 3 ans qu'on est là, 0 accident. Et sous Michel Fraisse, le dernier mandat, je pense qu'il y a eu 0 accident.
Non, c'est pas ça. C'est que beaucoup
de
gens, de personnes qui sont intervenues là, m'ont indiqué qu'il n'y a pas eu d'accident, mais se sont pris, sont fait traiter et tout. Enfin,
oui, mais ça, avec le stop ou sans le stop, on se fera traiter de tout. Hein.
Pratique facilement l'électrique.
Je crois qu'il faut que chacun se responsabilise. On ne peut pas être derrière tout le monde. S'il y a un stop, s'il y a un cédé de passage, les personnes doivent être responsables. Après, s'il y a des incivilités, si les gens s'insultent, on n'est pas responsable des insultes. Moi, j'habite chemin des Olivettes et ça donne sur la Lironde. Je peux vous dire qu'il y a un cédé de passage. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui me le cède de passage. Mais c'est pas grave, on est prudent, on conduit. On conduit pas en sachant qu'on sait conduire, on conduit en sachant que les gens sur la route ne sont pas forcément respectueux des lois. Voilà, quand on a un véhicule entre les mains qui est un engin de mort, on est responsable. Et on ne peut pas accuser la mairie, la commune.
Mais je n'accuse personne.
Non, mais je veux dire...
Le problème, c'est de voir qu'il y a un problème. On essaie de le résoudre ou on ne peut pas le résoudre. Si on ne peut pas le résoudre,
mais non, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple.
C'est pas méchant.
On peut essayer d'apporter une autre solution si c'est possible. C'est tout. C'est une question qui est posée par les riverains.
Ouais.
Donc ils attendent une réponse. Voilà.
Votre troisième question, monsieur Bar.
Mais c'était pas celle-là.
Non.
Troisième question. C'est Céline qui l'a posé. Bon, c'est concernant l'amiante, l'école élémentaire de Montferrier. Il y a eu une enquête d'association Vert d'Orage, et quand on se branche sur cette enquête, etc., en collaboration, etc., donc vous pouvez rechercher le nom de la commune, obtenir la liste des établissements qui s'y trouvent, leur situation concernant l'amiante. En cherchant, nous trouvons l'information suivante pour Montferrier. La situation de cette école est inconnue. Or, le dossier technique amiante est une obligation légale pour toute école construite avant 1997. Donc la question, pourrions-nous consulter le dossier technique amiante de l'école élémentaire et pourquoi les données ne sont-elles pas publiques? Voilà, c'est tout.
Alors, il y a un dossier amiante et il est évident qu'avec la rénovation de l'école, nous avons été obligés de faire intervenir CaliConsult qui nous a fait toute une étude sur l'amiante et qui nous l'a donnée en janvier 2022. Il n'y a pas d'amiante dans l'école élémentaire. Les seuls endroits où il y a un tout petit peu d'amiante, c'est dans les joints des fenêtres, des vitres, de certaines fenêtres. C'est-à-dire que sur toutes les fenêtres de l'école, j'ai lu dans le rapport qu'il y avait 15 menuiseries qui contenaient dans le joint mastic qui tient la vitre qui a de l'amiante. Donc,
elles
ont été changées selon la procédure, avec les autorisations pour se débarrasser de l'amiante, mettre dans des sachets fermés, conditionnés, avec une étiquette, etc. Donc voilà, on a beaucoup de chance, parce qu'on pensait avec M. Jamme qu'une fois que CaliConsult serait passé, qu'on aurait beaucoup d'amiante. Finalement, il n'y a pas d'amiante à l'école, donc tant mieux, parce que voilà, ça aurait été une mauvaise chose. Voilà. Nous avons terminé le conseil. Je vous remercie pour votre écoute. Et
c'est pas une question. Je voudrais juste revenir sur un point qu'on a évoqué déjà il y a quelques temps lors du conseil municipal à propos des crèches et de la petite enfance. Il avait été proposé, suite aux réflexions qu'il y a eu, et notamment avec les problèmes de la crèche, qu'il y ait un groupe de travail qui émane de la commission jeunesse, enfance, etc., sur ce dossier. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas vu trace, donc on sollicite, de façon à ce qu'il y ait la possibilité qu'un groupe de travail se mette en œuvre dans le cadre du dernier trimestre de l'année, de façon à ce qu'on puisse inscrire ces éléments-là dans le budget de l'année prochaine, parce que, quelque part, il y aura sans doute des choses à discuter. Alors, je sais que vous avez, à titre conservatoire, discuté, mais je pense que les discussions que vous avez eues sont limitées à un certain nombre de personnes. Il serait intéressant que ce soit partagé sur l'ensemble du conseil municipal.
On le fera à la rentrée.
La constitution de ce groupe qui viendra faire un petit bilan.
Quand on aura notre DGS qui pourra nous soulager sur beaucoup de choses.
Je le comprends aisément, on remet ça en haut de la pile. C'est une demande.
Mais c'est vrai qu'on a travaillé avec la crèche des Câlins, pour ne pas la nommer, qui est en très 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 grosse difficulté, et que nous avons fait une grosse réunion avec la CAF, il y avait énormément de monde, on devait être une vingtaine de personnes, je pense, à cette réunion, le comité technique, et c'est très compliqué, elles ont un budget qui a explosé, qui nous interpelle quand même énormément.
On est d'accord là-dessus, mais justement, l'objet de ce groupe de travail, c'était d'aller à quelques-uns.
Bon, alors là, on y est allé, c'est-à-dire que encore une fois, j'ai dit qu'il était très important de garder ce moyen de garde d'enfants au sein de la commune. Et nous, on n'a pas assez de crèches, on n'a pas assez de moyens de garderie pour les enfants, donc il faut absolument le maintenir. Et donc, on a beaucoup discuté. Elles ont essayé de trouver des solutions, comme avait fait à une certaine époque la crèche des Câlins aussi. Hein. Et nous avons abondé très, très largement, puisque nous leur donnons 50 000 euros.
Oui.
50 000 euros en 2023. La crèche des Câlins aura reçu 50 000 euros comme subvention de la mairie.
Voilà. Parce que vraiment, ce groupe de travail, c'était d'aller au-delà justement.
Mais on compte pérenniser cette subvention à la seule condition, c'est qu'ils arrivent à se maintenir tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils plongent pour X raisons, on ne suivra pas.
Alors je voudrais ajouter également, j'appuie véritablement aussi ce groupe de travail. Les chiffres là, pour l'ABS, sont quand même éloquents. On a 51 places en crèche actuellement. Il y a en gros 150 enfants de 0 à 4 ans. Donc 1 pour 3 aujourd'hui est accueilli.
Alors ne sont pas en crèche.
Non, c'est pas en crèche. Il y a quand même un manque important, je trouve, aujourd'hui au niveau des crèches à Montpellier. Voilà, c'est tout. Donc,
non, mais ça ne concerne pas que ça. Je veux dire, s'il y a un groupe de travail là-dessus, il faudra travailler aussi sur les assistantes maternelles, les autres formes d'hébergement,
etc.
C'était ça un peu la philosophie de cette réflexion qui peut être entamée, qui dépasse le cadre juste de la crèche des Câlins. Parce qu'il y a aussi deux autres structures sur la commune.
Dont une qui fonctionne très bien.
Voilà, comment on les partage,
Bon, après, on est en train de mélanger du privé, de l'associatif. Bon, c'est un peu compliqué.
Et des contraintes, du coup, qui sont pas
les mêmes. Exactement, qui sont complètement différentes. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une réflexion. Je vous dis, quand on sera un petit peu plus soulagé au niveau travail, on montrera un groupe de réflexion là-dessus.
Voilà, l'idée, c'est d'avoir une projection sur plusieurs années pour savoir comment les choses peuvent évoluer, dans quel sens.
Tout à fait. Merci pour ton intervention. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous bien et revenez en forme.